Radio Prague, les informations.
Le gouvernement a approuvé le scénario des réformes fiscales et sociales. Les chrétiens démocrates tchèques continuent à soutenir leur président. Une commission parlementaire tchéco-autrichienne veillera à la sécurité de la centrale nucléaire de Temelín. Le gouvernement a approuvé les réformes fiscales et sociales qui doivent arrêter le processus d'endettement du pays. D'après le ministre du Travail et des Affaires sociales, Petr Nečas, il s'agit notamment de l'introduction de l'impôt unique sur le revenu qui devrait être de 15% pour les personnes physiques, de l'harmonisation de la TVA et des mesures prises en vue de freiner l'explosion des dépenses sociales. Le Parti social-démocrate à l'opposition est prêt à rejeter les réformes proposée. Le vice-premier ministre et président du Parti chrétien démocrate, Jiří Čunek, a réussi à défendre sa position devant le bureau politique de son parti. Jiří Čunek avait essuyé une ferme critique pour ses propos sur les Roms et les allocations sociales. Malgré la critique des médias, de plusieurs partis politiques et du président de la République, le Parti chrétien démocrate continue, à quelques exceptions près, à appuyer son président, dont le nom figure également dans une affaire de corruption. Le Conseil de sécurité de l'État tchèque a invité à sa prochaine session le 23 avril le directeur de l'Agence américaine pour la défense antimissile Henry Obering. Il est prévu que ce dernier se rende également en Pologne. L'intention d'implanter un parapluie de protection antimissile américain en Europe centrale a suscité une critique virulente de la Russie et certains pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne, ont également émis des réserves. Une commission parlementaire mixte tchéco-autrichienne chargée de veiller à la sécurité de la centrale nucléaire tchèque de Temelín sera composée du côté tchèque de 10 députés et 3 sénateurs. Les jours prochains, la partie autrichienne sera consultée sur le projet et la commission devrait commencer ses activités d'ici 1 ou 2 mois. 10 membres de la direction de l'agence gouvernementale Czech Invest ont donné leur démission en signe de protestation de la façon dont le ministre de l'Industrie et du Commerce, Martin Žiman, avait démis de ses fonctions le directeur général de l'agence, Tomáš Hruda. Des œuvres du sculpteur Ladislav Zivre sont exposées à partir de ce mercredi au belvédère de la reine Anne au château de Prague. Il s'agit de la plus importante rétrospective de cet artiste, membre du groupe 42, influencé par le cubisme, auteur de créations surréalistes, de portraits et inventeur de la technique originale baptisée moulage. Mercredi, jour de fête des Ivana, le temps en République tchèque sera variable, avec des températures variant entre 7 et 11 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Jarka Gisublova. Merci de les avoir suivies.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinsky.
Bienvenue à l'écoute de ce magazine avec un sujet d'actualité de premier ordre qui fait parler beaucoup de lui aussi bien dans les milieux politiques qu'au sein de l'opinion publique. La réforme de la fiscalité, de la sécurité sociale et de l'assurance maladie selon le projet du gouvernement de coalition. Václav Richter vous présentera ensuite le nouveau directeur de la première scène tchèque, le Théâtre National. Notre correspondant parisien, lui, a découvert un maire tchèque en France. Anne-Claire Veluire nous fera revivre les derniers moments du festival du film Fabiofest avec l'un de ses hôtes, une vedette du cinéma polonais, un thème présenté par Alena Gabertova, et nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en notre compagnie. On pourrait vraiment dire que le gouvernement de coalition de centre-droite n'a pas froid aux yeux. Le cabinet de Mirek Topolánek, formé par le Parti civique démocrate de droite, les chrétiens démocrates et les Verts, a élaboré et compte présenter à la Chambre des députés, où il ne dispose pas de la majorité, la plus grande réforme fiscale et de la sécurité sociale depuis la naissance de la République tchèque en 1993. Objectif primordial de cette réforme, stopper la hausse constante de l'endettement des finances publiques. Dans ce projet de réforme qui sera présenté en bloc aux députés, ce sont les impôts qui subiront les plus grandes modifications. À la place de l'imposition progressive en vigueur, le gouvernement table sur l'impôt unique sur le revenu. À compter du 1er janvier 2008, il devrait être de 15%. Mais attention, pour les salariés, cet impôt sera calculé sur ce que le gouvernement appelle le salaire superbrut, donc y compris les 35% que verse l'employeur à la sécurité sociale et à l'assurance maladie. Comme l'écrit le quotidien économique Gospodarskie Noviny, le revenu imposable d'un salarié augmentera ainsi de 47,5%. En dépit de la hausse des sommes qui peuvent être déduites de la base imposable, le quotidien constate que cette réforme sera favorable seulement à ceux qui ont des salaires élevés, au moins deux fois le salaire moyen, environ 750 euros, ou aux familles nombreuses, alors que la classe moyenne en paiera les frais. En effet, le gouvernement préconise la baisse de l'impôt sur le revenu, mais la hausse de la TVA sur les produits de première nécessité, denrées alimentaires, médicaments, logements, chauffage, qui passera de 5 à 9%. Les entreprises ne devraient payer que 19% d'impôts en 2010, au lieu de 24% actuellement. En ce qui concerne les économies dans la sécurité sociale, le gouvernement prépare une première phase, le remboursement des congés maladie et les allocations parentales. Ainsi donc, l'État ne devrait plus payer les trois premiers jours des congés maladie. Le remboursement de congés maladie inférieurs à deux mois serait plus bas que celui pratiqué aujourd'hui. Les allocations parentales devraient dépendre de la durée du congé. Plus il serait long, moins le parent serait indemnisé. Pourquoi une telle réforme fondamentale de deux sphères qui touchent directement le citoyen tchèque ? Explication par le ministre du Travail et des Affaires sociales, Petr Nečas.
Les finances publiques suivent un développement qui conduit à la catastrophe. En 2009 déjà, tous les revenus de l'État pourraient être consacrés aux dépenses publiques obligatoires. Cela demande donc une réforme radicale.
L'opposition, aussi bien social-démocrate que communiste, a déjà annoncé qu'elle serait contre ce projet de réforme qui ne favorise que les plus riches en augmentant l'imposition de la classe moyenne, la plus nombreuse dans le pays. Elle refuse aussi d'examiner le projet des réformes en bloc. Par contre, les sociaux-démocrates ne seraient pas contre la réforme du système de retraite que le gouvernement compte présenter sous peu. Départ à 65 ans, pension après 35 années de travail. Ce projet de réforme revêt une grande importance pour la coalition gouvernementale car il y a lié son existence. Une existence qui tient à deux fils, deux anciens députés sociaux-démocrates qui lui ont assuré la majorité lors du vote de confiance. Ce lundi, le ministre tchèque de la Culture, Václav Jehlička, a installé dans ses fonctions le nouveau directeur général du Théâtre National de Prague, Andrej Černý. L'ancien directeur de l'Institut du Théâtre de Prague, Andrej Černý, envisage de procéder à une transformation du statut du Théâtre National. Václav Richter.
Pas de révolution, mais une transformation lente et profonde. C'est ainsi qu'on pourra résumer les objectifs du nouveau directeur du plus grand et plus important théâtre de République tchèque, qui réunit trois ensembles différents, la troupe de théâtre dramatique, la troupe de ballet et l'opéra. Chacune de ces troupes a son propre directeur. Le premier jour de son mandat, Andrej Černý a confirmé dans leurs fonctions le chef de la troupe de théâtre dramatique Michal de Čekal, le chef du ballet Petr Zuzka et a nommé le jeune metteur en scène Jiří Hejman, chef de l'opéra. Il a expliqué aussi ses objectifs et ses ambitions.
Mes tâches sont surtout de longue durée. J'ai un mandat de 6 ans et je me suis donné pour objectif de changer le statut et le cadre juridique du Théâtre National. Je souhaite transformer le Théâtre National, qui est une institution d'État, pour en faire une institution de droit public. Cela ne touchera pas tellement les activités quotidiennes du théâtre, mais plutôt sa situation dans le contexte juridique et économique. Autrement dit, cela devrait contribuer à la stabilité de ce grand organisme.
Pour parvenir à cet objectif, Andrej Černý envisage notamment de réduire les compétences du directeur général du théâtre. Cela peut paraître un peu paradoxal, mais il est le directeur qui s'apprête à limiter ses propres compétences.
Víte, ředitel Národního divadla podle mého názoru nemá mít kompetence umělecké.
Vous savez, le directeur général ne doit pas avoir, à mon avis, les compétences artistiques. Il ne doit pas être la personne qui décide si tel ou tel chef d'ensemble fait bien son travail et si son projet est le bon. Je pense que ce genre de théâtre, qui n'existe d'ailleurs qu'en Europe centrale et qui est une institution abritant trois ensembles différents, évolue vers un établissement dont le directeur sera plutôt un manager et coordinateur et dans le cadre duquel les chefs des ensembles seront tout à fait indépendants.
À l'avenir, le chef des trois ensembles du Théâtre National devrait donc être nommé et révoqué par le ministre de la Culture sur recommandation d'une commission spéciale. Andriy Cherny souhaite aussi mettre à la disposition de l'ensemble du Théâtre Dramatique et du Ballet Nova Scena, Nouvelle Scène, salle située tout près de l'édifice historique du Théâtre National et qui est réservée aujourd'hui au spectacle de l'ensemble Laterna Magica, la lanterne magique.
La peinture tchèque exposée en France sur les bords de la Loire, cela n'arrive pas tous les jours. À l'origine de cette nouvelle exposition, un Français d'origine tchèque devenu le maire d'un des villages de la région. Pour l'occasion, notre correspondant Jiří Slavíček s'est rendu à Sully-sur-Loire pour le vernissage de cette exposition.
La peinture tchèque du XXe siècle est à l'honneur depuis vendredi dernier au bord de la Loire grâce à une exposition vraiment remarquable à Sully-sur-Loire qui va durer jusqu'au mi-avril. Réalisée en collaboration avec la petite commune voisine d'Ide, ou pour être exact avec son maire Zdeněk Johan, géologue d'origine tchèque et grand collectionneur de la peinture de son pays de naissance, qui est arrivé en France après les grands bouleversements de l'année 1968. Mais au vernissage, en présence de l'ambassadeur de la République tchèque, son excellence Pavel Fischer, on ne parlait pas trop politique, mais surtout de nos racines culturelles communes. Comme l'annonce fièrement le petit catalogue bien documenté, la majeure partie des œuvres exposées proviennent des collections privées en France et en République tchèque, souvent exposées ici pour la première fois en public. C'est aussi grâce aux suggestions de M. Johan que cette exposition propose, en dehors des valeurs sûres, comme par exemple Doyen, Joseph Istler, Adolf Meister, Max Schwabinski, Karel Smolinski, Jan Bauch, Emil Fila et bien d'autres, mais surtout l'invité d'honneur Jaroslav Pecka, ancien élève du professeur Musica, grand admirateur de la culture française. Ces tableaux d'inspiration plutôt surréaliste illumine l'ensemble de cette exposition. Alerte septuagénaire, Jaroslav Pecka, qui partage son temps entre son atelier pragois et la petite commune de Lužice près de Hodonín, présent au vernissage, a confessé non seulement son admiration pour les racines culturelles communes pour la République tchèque et la France, mais surtout son désir intérieur de peindre en s'inspirant de ce qu'il a pu voir en France, pays qu'il n'a pu visiter pour la première fois que quand il avait 56 ans. Mais c'était sous l'Ancien Régime. Maintenant, comme il le dit lui-même, sa peinture, c'est le sentiment d'une liberté partagée. De Sully-sur-Loire pour Radio Prague, Jiří Slavíček.
Le Festival du film français, les Journées du film européen, Jedensviet, Un Monde, le Fabiofest, la finale. L'offre de manifestations cinématographiques dans le pays, depuis le début de l'année, est on ne peut plus riche. Alena Gebertova.
La situation du spectateur tchèque semble ambiguë. D'un côté, dans la distribution courante, il peut voir notamment des films de production américaine, la représentation d'autres cinématographies étant nettement plus modeste. Un exemple pour tous, la sortie en salle de seulement 5 ou 6 films français serait prévue cette année. D'un autre côté, Prague et d'autres villes du pays offrent une belle récompense en organisant pas mal de festivals ou de panoramas de films avec des programmations intéressantes et variées. Une place privilégiée revient au Fabiofest, festival qui, après s'être terminé dans la capitale tchèque, se poursuit dès cette semaine dans plusieurs autres grandes villes. Il a accueilli, outre 70 000 spectateurs, rien qu'à Prague, plusieurs vedettes internationales. Rappelons-nous la présence du comédien polonais Daniel Olbrychski, mis à l'honneur pour son apport au cinéma mondial.
J'ai appris ça il y a quelques jours. Alors je me suis dit, si nos voisins veulent me honorer comme ça, alors allons-y. Et après toute la journée que je bossais très très dur hier, en jouant le roi Lear au théâtre, j'ai pris ma voiture, j'ai pris ma femme, je conduisais toute la nuit pour être entre vous et pour me gâter, pour me caresser par votre choix, votre chaleur, et ça touche le cœur. Voilà. Et je reviens parce que demain matin, de nouveau, je travaille à Varsovie. Alors vous voyez, vous m'avez offert le prix tellement important, je peux dire, parce que le lauréat précédent, c'était mes amis, Lelouch, Claudio Cardinal, Iosellini, Christophe Zanussi et les autres, Riazanov, je les connais presque tous. Et maintenant, moi, je suis très touché et très honoré.
À la différence de certains de ses collègues polonais, Daniel Olbryski n'a jamais eu l'occasion de jouer dans un film tchèque. En revanche, il a pu tourner dans les ateliers Pragu à Barrandov.
J'ai travaillé plusieurs fois à Barrandovo. J'ai travaillé dans deux films allemands qui étaient tournés ici, Rosa Luxembourg, de Margaret von Trotta avec Barbara Sukova. Et j'ai fait un film allemand sur le hockey sur glace. Et j'ai fait à Barrandovo le film de Nikita Mikhalkov, Cyrulik Sevilski. Voilà.
La prochaine grande manifestation cinématographique, le festival La Finale, se déroulera fin avril à Plzeň, chef-lieu de la Bohème occidentale. Il présentera l'ensemble de la création nationale de l'année écoulée, soit 20 longs-métrages et 28 films documentaires. Quelques rétrospectives sont également programmées, dont celle consacrée au grand documentariste Jan Špata, récemment décédé.
Fin de ce magazine d'actualité sur Radio Prague, mais restez avec nous pour la suite de cette émission.
La République tchèque au quotidien. Alexis Rosenzweig.
Le début de cette année 2007 a été l'occasion de fêter les 30 ans de la charte 77, un document et un mouvement majeur dans l'histoire de la dissidence tchécoslovaque contre le régime communiste, moins de 10 ans après l'écrasement du printemps de Prague. Nous revenons aujourd'hui dans cette émission sur cet anniversaire, 30 ans après, en donnant notamment la parole à des étudiants tchèques, à la génération née après la charte 77, pour essayer de comprendre ce qu'est pour eux l'héritage laissé par cette charte, par ses initiateurs et ses signataires. À Prague, les 30 ans de la charte 77 ont d'abord été célébrés dans l'église Sainte-Anne, un lieu de rencontre et d'échange d'idées, né grâce à la fondation des époux Havel. Fin mars, plusieurs institutions se sont ensuite réunies pour organiser une petite exposition et une conférence internationale à l'université Charles. L'occasion pour plusieurs signataires de la charte de raconter, expliquer et débattre devant des étudiants venus nombreux. Jan Pav, étudiant en droit à Prague, a suivi la conférence dans l'amphithéâtre de la faculté de philosophie.
Je suis né en 1978, donc un an après la rédaction de la charte. Pour moi, elle représente un groupe de personnes vraiment courageuses. Les jeunes ont du mal à se rendre compte de ce qu'était le régime de l'époque. L'héritage de la charte aujourd'hui, c'est en quelque sorte une obligation morale vis-à-vis des populations dans des États qui ont encore des régimes comparables à celui qui existait ici il y a 30 ans, pour les aider à accéder à la liberté.
Le politologue français d'origine tchèque, Jacques Rupnik, qui a co-organisé la commémoration de la charte au début de l'année à Paris, était lui aussi à cette conférence.
L'idée du droit d'ingérence, en fait, est née avec les accords d'Helsinki. Dans les accords d'Helsinki, il y avait la fameuse troisième corbeille qui concernait les droits de l'homme, la liberté de circulation des hommes et des idées. Et finalement, qu'est-ce qu'ont fait les chartistes? Eh bien, ils se sont emparés de ces accords-là pour demander leur application. Eh bien, Maintenant, dans un contexte évidemment entièrement différent, il s'agit de voir est-ce que ce même principe peut être ou doit être invoqué ailleurs. Voilà, donc l'idée de l'indivisibilité de la liberté, l'indivisibilité des droits de l'homme, ça c'est quelque chose qui reste. Et alors ça se traduit effectivement indirectement dans la politique étrangère de la République tchèque par certains soucis d'encourager le développement de la démocratie dans certains pays. Ce serait vraiment en conformité avec l'héritage de la charte si ce souci n'était pas trop sélectif. Il faut vraiment que ce soit appliqué à tous les cas de violation et à tous les régimes. Et donc, voilà la difficulté de transposer en politique étrangère des notions qui ont été inventées dans la dissidence. J'ai bien suivi l'évolution de certains, des chartistes, et bien sûr le lien qu'ils ont fait entre leur combat pour la liberté et la guerre froide, le rôle que les États-Unis ont joué dans cette bataille-là. Mais évidemment, ça ne signifie pas qu'ils aient toujours et partout raison l'application de cette fidélité ou cette reconnaissance à la démocratie américaine dans tous les domaines de la politique et surtout de la politique européenne. On a bien vu avec la guerre en Irak qu'avec les meilleures intentions on pouvait aussi soutenir une politique assez désastreuse et aujourd'hui donc cela mérite réflexion. On peut soutenir des principes, mais un des principes de la charte, c'était la non-violence. C'était quand même l'héritage de la charte. La fin ne justifie pas les moyens. Donc l'idée d'employer la force, la guerre, pour changer de régime ou amener la démocratie pose problème. Ça c'est plus la fidélité à la charte, ça c'est plutôt la fidélité à la politique américaine.
Radka Kunderova est étudiante à la faculté de philosophie de l'université Charles. Elle aussi a assisté aux deux journées de cette conférence et nous a confié que c'est seulement récemment qu'elle avait pris conscience de l'importance de la charte pour son pays.
J'ai 24 ans et pour moi, la charte 77 est déjà un chapitre de notre histoire que j'ai dû étudier par cœur dans les livres. Pour moi, c'est une initiative très importante et j'admire tous ces gens qui l'ont rendue possible. C'est important pour moi de célébrer cet anniversaire aujourd'hui. Je pense aussi que le gouvernement aurait dû plus s'impliquer dans ces célébrations, tout comme le président.
Václav Klaus, le successeur de Václav Havel à la présidence de la République, n'a en effet pris part à aucune célébration et ne s'est pas exprimé sur le sujet à l'occasion des 30 ans de la charte. Une attitude finalement logique, d'après Patrick Eichler, étudiant en histoire.
Cela ne me surprend pas que les célébrations n'aient pas eu lieu au niveau national. Il faut se souvenir des discours de Václav Klaus il y a quelques mois, dans lesquels il a affirmé que l'on devait la chute du régime à la société majoritaire, à la zone grise, comme il a dit, des gens qui allaient à la campagne, au foot et au hockey, et qui par leur inactivité et en volant l'État, a eu raison du régime. La charte 77 est une incitation à réfléchir sur la responsabilité dans l'histoire de la société dans laquelle je vis. Bien sûr, aujourd'hui, il ne faut pas oublier les autres activités citoyennes, Zelená hnutí, Obroda ou Hnutí občanské solidarity. Il y en avait plusieurs comme ça. La charte 77 était le plus important, mais pas le seul de ces mouvements.
Et c'est déjà la fin de notre émission, la fin de la République tchèque au quotidien. Merci à toutes et à tous de votre attention. À très bientôt sur Radio Prague.
C'est à regret que nous nous quitterons maintenant, en espérant bien vous retrouver à l'écoute d'une prochaine émission de Radio Prague.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz.